Bonsoir chère Émilie.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. Pourquoi lit-on au juste ? Alors c'est une question qui peut vous sembler plutôt banale, je vous l'accorde, mais qui porte en elle la nécessité de se réapproprier la littérature et l'acte de la lecture. Je lis parce que, io leggo perché, c'est le nom d'un hashtag sur les réseaux sociaux, ce mot-clé qui permet de générer une conversation. Un hashtag italien donc qui a été au centre d'une campagne pour promouvoir la littérature et la lecture en Italie ces derniers mois, comme le rapporte le Corriere della Sera. Et cette année, l'objectif affiché de cette campagne, selon les mots de son coordinateur, Antonio Calabro, c'était la réappropriation des lieux de lecture, des bibliothèques aux librairies, pour replacer la lecture, je cite, dans le quotidien des enfants, des adolescents et des travailleurs. Alors qu'en est-il de cette réappropriation en France, surtout concernant les enfants et les adolescents, quand on se penche sur la mutation de l'école des loisirs ? Laurent Nunez, dans sa chronique « À dire vrai » dans le magazine Marianne, y déplore la fin d'une époque. L'écrivain Geneviève Brisac, écrit-il, qui dirigeait depuis 27 ans la formidable maison d'édition Jeunesse, vient de se voir remercier assez peu poliment. Et Télérama mène l'enquête sur cette école des loisirs, nouvelle formule sans Geneviève Brisac, elle est signée de Michel Abescat, on y apprend que 5 projets précédemment acceptés par l'auteur et éditrice ont été déprogrammés et Arthur Hubschmidt, directeur littéraire, bien que peu porté sur le roman selon le journaliste, vient de refuser une vingtaine de projets venant d'auteurs bien connus pourtant de l'école des loisirs. À ce titre, l'auteur Alice de Poncheville témoigne dans cet article de la manière dont son projet a été expédié en 11 minutes par ces mots de l'éditeur. « Je n'aime pas le fantastique, ça m'ennuie, je cherche des personnages réels, simples, qui accomplissent des choses. » Une appréciation qui rejoint celle de son directeur Louis Delasse, c'est l'écrivain Olivier Adam qui les rapporte, je le cite. « Il m'a expliqué que les romans publiés par Geneviève Brisac ne correspondaient plus au goût des jeunes, qu'ils étaient trop souvent sophistiqués, trop sombres. Et puis il m'a proposé de continuer à lui donner des textes. Sans doute n'a-t-il pas lu mes précédents romans pour ados qui parlent du deuil et de la mort. » Alors on aura noté ce rejet du fantastique et cette appétence très à la mode pour le réel. C'est peut-être pour cette raison que certaines maisons d'édition raffolent de récits de reportages au long cours qui n'ont plus leur place dans les journaux. Le journaliste de La Croix, Jean-Claude Raspienja, s'interroge les nouveaux horizons de la fiction. Car si le phénomène est loin d'être nouveau et que de plus en plus de revues accueillent ces récits de reportages, il y a eu ces dernières années des maisons d'édition qui se sont créées avec l'objectif premier de se spécialiser dans ce genre de publication, à l'image des toutes jeunes éditions Marchiali, dont le premier ouvrage Tokyo Vice de Jake Adelstein est paru il y a 3 mois et qui se donne pour mission de ne publier que ce genre de récits mais sous forme de livres et non de revues. Cette nouvelle entreprise qui s'est montée à l'aide d'un financement participatif par ailleurs montre qu'il est possible pour de très jeunes éditeurs sans grande expérience du milieu au préalable de pousser les portes du domaine de l'édition avec un certain succès. Un succès que Laurent Beccaria, le patron des éditions des Arènes et cofondateur de la revue 21 explique de la manière suivante. L'engouement pour les histoires vraies avec de vrais personnages répond à la crise de la fiction. Dans les romans, selon lui, raconter une histoire passe désormais derrière le style. Ou plutôt, pour qu'un roman suscite l'intérêt, il faut que l'histoire dépasse peut-être le cadre même de son histoire et de l'objet livre. Chloé Voitier signe dans le Figaro un article sur ses ouvrages sous X, souvent signés de personnalités politiques, c'est-à-dire des livres écrits dans le secret de leur auteur jusqu'au dernier moment avant la parution, mais dont les éditeurs vendent déjà le succès colossal. Ça l'avenir aux libraires. Une question de protection de leurs auteurs plus qu'une recette marketing se défendent certains éditeurs. D'autant que ce procédé énerve un peu le syndicat de la librairie française car se voir obligé d'accepter la vente d'un ouvrage dont on ne connaît pas l'auteur, fût-il une célébrité du monde politique, ça comporte toujours une bonne part de risque. Surtout que parfois, selon ce même syndicat, je cite, l'ouvrage fait pchit. Mais quoi qu'on en dise, le secret d'un succès durable pour l'auteur et son éditeur réside pas mal dans ce secret et ce mystère de l'identité, comme celui de l'auteure italienne Elena Ferrante, qui le cultive depuis plus de 20 ans. Elle est, selon le titre de l'article de Jacques de Saint-Victor dans le Figaro littéraire, l'auteur qui fait fantasmer l'Italie. Le journaliste explique que, mis à part ses modestes éditeurs romains de la maison E.O., personne ne connaît son vrai nom ni son visage. L'auteur de L'Ami prodigieuse ou du Nouveau Nom, paru dernièrement, a été récemment au centre d'une tribune de l'écrivain et journaliste Roberto Saviano dans La Repubblica, qui voulait la proposer au Strega, le prix Goncourt italien, pour, disait-il, faire en sorte que des petites maisons d'édition accèdent aussi au prestige de ces prix prix littéraire, ce qui a créé la polémique dans le milieu. Comment peut-on penser à attribuer un prix à une auteure qui, de toute façon, pour conserver son anonymat, ne viendra pas le chercher? En tout cas, pour ses éditeurs, c'est plutôt une bonne chose que de se voir associé à la possibilité d'un prix et au charme d'un secret pareil. Et pour les lecteurs, ce mystère qui résonne au-delà des pages du roman peut les amener à y revenir. Perché io leggo, pourquoi je lis, pour percer le mystère de l'auteur.